Et ça enregistre.
Super. Merci. Je vais commencer par prendre la parole. Alors, donc en effet, ce qu'on a essayé de faire, donc, au départ, c'était,
Fabien avait proposé un peu comme ça une chaîne thématique autour du matérialisme et de la communication. Et c'est vrai que c'est une thématique qui est importante puisque, on le sait, les études de communication ont vu exister bon nombre d'approches qu'on pourrait, disons, qualifier d'idéalistes, y compris au sein de la critique d'ailleurs, notamment avec les auteurs qu'on rassemble sous le label un peu bizarre et pas tout à fait scientifique de French Theory, Sartre, Baudrillard, Deleuze, Derrida notamment, Foucault, Lacan, etc. Selon lesquels, pour faire simple et pardon de faire si stupide, mais selon lesquels en gros les médias produiraient avant tout du signe, du symbole, du simulacre ou du spectacle. Et finalement, qui considèrent l'avènement de la communication avant tout comme une hypertrophie des superstructures qui recouvrirait désormais entièrement les bases matérielles des sociétés. Et d'une manière générale, c'est vrai que la communication, comme disons discipline, est aussi, ou a pu être, et on le trouve aussi dans notre discipline, les sciences de la communication, une invitation à l'idéalisme. Alors, je ne vais pas beaucoup revenir sur le texte de Fabien dans Question de com' qui est en ligne, mais ce qui est intéressant, c'est que je trouve que j'ai bien vu à ce moment-là, et ce texte quand il est sorti, et surtout les réactions qu'il a pu susciter, et bien tout ça a montré combien l'affirmation finalement d'une approche matérialiste en ce domaine que sont les sciences de la communication peut être reçue avec méfiance, voire suspicion. On sent poindre dans certains des retours qui ont été faits à Fabien l'idée quand même que le matérialisme c'est au fond le goulag. Et comme beaucoup de nos collègues dans la discipline, ce qui est intéressant c'est que ça montre aussi combien beaucoup de nos collègues dans la discipline semblent se retrouver sur des définitions des cycles qui font montre d'un assez grand nombre de croyances, notamment en la particularité du média en tant que tel, indépendamment semblerait-il des totalités sociales dans lesquelles il s'insère, en, et ça c'est le principal dans les réponses qu'on voit, en un pouvoir décider, et la possibilité de produire des idées qui auraient un impact sur des étudiants déjà acquis à l'impact d'autres idées. Je reconnais beaucoup de mes étudiants ici, vous savez que c'est une définition essentielle de ce qu'on appelle l'idéologie, avec également cette éthique du fonctionnaire en mission dans certains textes. Et également une autre croyance en la science et en la division du travail scientifique sous couvert d'interdisciplinarité. Alors, j'avais à l'époque proposé une réponse qui a été écartée. Et plutôt que de la reprendre ici, c'est-à-dire de reprendre ce débat qui est à la fois très général sur les cycles dans son ensemble et lié à un enjeu assez réduit qui était le débat sur le matérialisme dans Question de com', on a décidé avec mes deux camarades de travailler autrement. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chacun présenter une controverse spécifique qui implique le matérialisme dans les études de communication. Il s'agit à chaque fois de trois cas spécifiques. Je vais commencer en parlant du fameux débat entre économie politique et cultural studies. Et puis, je passerai la parole à Nadem Hanin, ici, qui, lui, interviendra sur la question de Gramsci et ses reprises dans certaines études de communication. Un Gramsci peut-être non matérialiste, il essaiera de montrer ça. Et ensuite, Natalia, elle, nous emportera vers un sujet très spécifique, et notamment qui a eu beaucoup de résonance en Amérique latine, il y a quelques décennies, mais je crois que c'est encore en cours, sur la contradiction entre théorie de la modernisation et communication pour le changement social. Alors, je vais commencer sans plus attendre pour essayer de ne pas être trop long et de ne pas amputer la parole à mes camarades. En gros, l'idée c'est de revenir sur une opposition évidemment célèbre et ancienne dans le champ des études critiques en communication, le fameux économie politique de la communication versus cultural study. Ce qui est rappelé, ou ce qu'il faut rappeler, c'est que lors de leur émergence, ces deux approches étaient pourtant théoriquement assez compatibles, notamment dans les premiers travaux de l'économie politique britannique. Des gens comme Garnham font référence à Raymond Williams très souvent, y compris des fois en exergue de certains textes théoriques. Mais finalement, l'évolution des deux courants, d'un côté le tournant postmoderniste, on pourrait dire, des cultural studies, notamment américaines, et de l'autre côté, le resserrement de l'analyse économie-politique sur les dimensions les plus purement économiques, a créé un fossé, et je cite, hein, un fossé, c'est-à-dire que des analystes, notamment Fenton, expliquent qu'il y a un fossé entre ces deux approches. Alors, les tensions entre ces deux courants ont été très documentées dans le monde anglo-saxon, notamment par les auteurs des deux courants eux-mêmes. Et c'est ça que je vous invite à garder en tête. Ça va être l'essentiel de ce autour de quoi s'articule ma proposition. C'est-à-dire que les auteurs des deux courants eux-mêmes ont documenté cette tension en s'affrontant régulièrement dans les années 80 et 90. L'affrontement le plus célèbre, et je vous en avais mis un extrait, disons, qui a été récemment traduit dans Réseau, dans les textes que j'avais envoyés, c'est dans une livraison de la revue Critical Studies in Mass Communications en 95. Alors, en général, cette documentation, je ne sais pas si vous avez eu le temps de parcourir, cette documentation se limite à la caricature. C'est-à-dire que les chercheurs, depuis un camp ou l'autre, caricaturent les positions de l'autre camp et en même temps caricaturent les leurs. En gros, c'est bien connu, hein, si on veut faire simple, pardon encore une fois pour cette caricature et pour m'y mettre moi-même, l'économie politique se concentrerait plutôt d'un côté uniquement sur les dimensions économiques, comme déterminant en dernière instance les effets des médias, avec une réflexion centrée sur la lutte des classes, négligeant du coup d'autres formes d'oppression et de domination. Et de l'autre côté, les cultural studies se perdraient dans des formes idéalistes d'analyse des textes médiatiques ou s'enthousiasmeraient, disons, pour les capacités créatives des usagers des médias, notamment depuis des sensibilités marginalisées de genre ou d'ethnicité. Le débat commence à être esquissé en France depuis finalement assez peu de temps. C'est-à-dire que c'est vraiment depuis les années 2010 qu'on voit des textes apparaître sur la question, notamment donc, ce fameux numéro de la revue Réseau en 2015, dirigé par Éric Maigret et Franck Robillard. Également, Éric Georges, au Canada, a cherché à un peu questionner la chose. Et finalement, le débat commence à être esquissé en France, alors que dans le monde anglo-saxon, un certain nombre de tentatives se lèvent en vue d'une articulation. Je vous en passerai en référence certains. Et en gros, ce que je voudrais dire, et ce que je reproche à ces tentatives d'articulation, c'est qu'elles partent toutes du principe qu'il faudrait aller au-delà. On est au-delà de la tension économique-politique comme chose de dit. Et en fait, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que ces propositions n'ont pas porté des résultats épistémologiques satisfaisants. Alors, on pourrait trouver plein de raisons, notamment des divergences conceptuelles de départ ou en cours de route, mais finalement, après avoir étudié justement ces limites, dans un premier temps, des principales tentatives d'intégration des deux approches, je vais essayer de poser une hypothèse un peu différente. C'est que je vais poser l'hypothèse que cette articulation ne peut, à mon avis, que composer avec les enjeux stratégiques actuels dans la libéralisation et la marchandisation du monde académique, et je pense que c'est l'un de ses problèmes principaux. Alors, voyons un peu les modèles. Comment penser cette tension entre économie politique et quelque chose de dit, selon les gens qui l'a pensé? Comment penser la possibilité d'une articulation? Alors, c'est simple. Lorsqu'on cherche à penser les possibles continuités entre les deux, eh bien, une première difficulté survient, c'est qu'il faut circonscrire le débat. Si on ne veut pas en rester à la caricature, il faut définir précisément des traditions épistémologiques précises pour chaque approche et éventuellement montrer les liens de ces approches avec des méthodologies qu'elles plébiscitent, etc. Et ce n'est pas toujours si évident. Par exemple, Jonathan Hardy, en 2014, et il était venu nous en parler d'ailleurs en 2015, pour lui, la différence fondamentale entre les deux, c'est le rapport au réalisme critique. Pour lui, pour l'économie politique, il y a un monde matériel au-delà des constructions discursives qui nous permettent de le penser. Et cette vision, pour les culturalistes, c'est une vision, je cite, « teintée de positivisme, croyance grossière en sa capacité à établir l'effet objectif de la réalité externe. » Mais après avoir dit ça, l'auteur lui-même s'empresse de tempérer son propre argument en rappelant qu'on peut trouver plein de contre-exemples des deux côtés. Il faut affiner. Il faut affiner. Et en fait, et en général, les manières sérieuses de procéder, me semble-t-il, révèle la même limite. Cette limite, c'est d'arriver à une position selon laquelle, finalement, l'articulation entre les deux approches serait d'ores et déjà advenue. Il suffit pour ça, eh bien, d'en conserver que ce qui serait susceptible de servir les buts d'une recherche, qu'elle soit théorique ou empirique, en confondant en plus souvent, je vais vous le montrer, cadre théorique et méthode.
Premier modèle, donc, on ne garde que le meilleur des deux approches. C'est ce que propose... Oula. Ah, il veut battre cette page. Excusez-moi. Par exemple, cet ouvrage de Robert Bake en 2009, alors pour lui, si vous voulez, les intervenants dans les débats acerbes entre les deux approches s'agitent, je cite, je traduis, hein, je vous ai mis l'original là, mais s'agitent sur des problèmes largement superficiels, dissimulant ou détournant l'attention du fossé ontologique plus profond. Mais le truc, c'est que ce fossé ontologique, pour Robert Babe, enfin, en tout cas, Robert Babe le voit comme quasi uniquement dû au tournant postmoderniste des cultural studies lors de leur exportation en Amérique du Nord. C'est-à-dire que pour lui, avant ce passage aux États-Unis, eh bien, l'économie politique, c'était un pilier des cultural studies britanniques. Il le rappelle ici, là, c'est un extrême, mais c'est le cas ailleurs. Et ce seraient les influences déconstructionnistes, notamment françaises, et l'arrivée du post-structuralisme comme courant mainstream dans les universités américaines au moment également de l'exportation des cultural studies aux États-Unis, qui aurait resserré cette approche sur des enjeux de pouvoir dans les constructions discursives préalables aux constructions sociales. Et donc pour Bale, eh bien, il suffirait de revenir à une tradition plus originelle, des cultural studies notamment, mais également de l'économie politique, pour penser l'articulation. Et ce qu'il propose même, hein, Robert Babe était un spécialiste d'Harold Innis, eh bien, ce qu'il propose, c'est même de revenir à des figures qui seraient pré-économie politique et pré-cultural studies, comme Harold Innis ou également Adorno. Le problème de cette approche, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas de synthèse véritable. On contourne le problème. C'est-à-dire qu'on contourne le problème, on revient à une version antérieure, et en plus, on retire la richesse des débats qui ont agité les cultural studies, justement, sur leur propre articulation au postmodernisme. C'est pas si simple. Bon, autre exemple, alors mais alors il va me le faire.
Oui, c'est ça. Alors, je vais le lancer depuis. Tu as un PowerPoint, toi ?
Oui.
Ok, je vais lancer depuis PowerPoint, ça marchera peut-être mieux. Un problème.
Il y a un problème. Vachement bien. Ok. Autre exemple, toujours donc dans le même numéro dont j'ai envoyé un extrait, Jérôme Guibert et Nelly Kemener proposent un principe assez équivalent, c'est-à-dire qu'ils cherchent à circonscrire les deux approches pour penser leur rapport au marxisme. Alors là, on est plutôt, dans le précédent cas, on était plutôt du côté de quelqu'un qui se définit plutôt comme, dans l'économie politique, là, on est plutôt du côté des cultural studies. Et donc, ce que proposent les deux auteurs, c'est de réancrer les cultural studies dans le centre de Birmingham, en rappelant qu'il était très marxiste, et en gros, les cultural studies, c'est ce moment-là. Et de l'autre côté, l'économie politique est présentée comme principalement vue à travers la théorie des industries culturelles, qu'on indique comme étant également initialement très marxiste, même si, au fur et à mesure de l'évolution de la théorie des industries culturelles, eh bien, le vocabulaire marxiste s'efface peu à peu. Et donc là, on a finalement davantage, disons, on met en avant le manque de recours à la référence marxiste, cette fois-ci du côté de l'économie politique, au moment où on affirme et on suraffirme le caractère marxiste des cultural studies en les voyant à travers les cultural studies britanniques et notamment l'émergence de Birmingham. Et de là, il y a un passage en revue d'un certain nombre de travaux plus récents, loin du marxisme, qui permettent d'entrevoir, mais des fois sans être très précis ou sans plus de précision, disons, une articulation entre les deux approches ou une convergence dans les débats actuels sur les publics et les dispositifs participatifs du web, notamment avec Jenkins. C'est pas très très clair. Et il y a plusieurs paragraphes comme ça qui sont assez brumeux, mais néanmoins, enfin, en tout cas, moi je les ai trouvés un peu brumeux, mais néanmoins, voilà, ce serait là qu'il y aurait actuellement, eh bien, une possibilité d'articulation entre les deux approches. Alors, bah, cette manière-là, comme la précédente, me semble contenir un problème particulier, c'est que ça évite le débat de ce qui fait débat. C'est-à-dire que le dépassement est déjà advenu, quelquefois d'ailleurs, on peut, selon ce modèle-là, entrevoir le dépassement dans une nouvelle approche. C'est par exemple ce que propose Maxime Ouellet, lui il voit ce dépassement dans l'approche du courant critique de la valeur. Aileen Mihan et Hélène Riordan le voient dans le féminisme. Et David Desvanhage, par exemple, le voit dans l'économie morale. Donc voilà, hein. Considérez que le dépassement est déjà advenu, il ne faut garder que le meilleur des deux approches. Très bien. Ça veut vraiment pas. Ben, c'est ce que j'ai fait là, mais en fait, tu vois, quand je lance un PDF, il n'aime pas mon PDF. C'est-à-dire qu'il y a des pages qui ne marchent pas. Personne n'aurait par hasard un adaptateur mini DVI HDMI ou truc comme ça. Non. On va en faire autrement, on va en faire sans ça.
Si quelqu'un en a un qui a un Mac.
Oui, ça marche aussi.
Ça fonctionne aussi.
C'est vrai. C'est HDMI ou c'est.
Il y a un HDMI.
Sur ta clé de document, c'est
ouais,
ça.
Ouais,
ça. On aurait peut-être fallu le mettre sur le disque en fait.
Ouais,
alors,
c'est ici. Et alors, dans le cas de la HDMI, il faut vraiment déjà. C'est d'abord une. Moi aujourd'hui, je suis électrique, je sais pas. Pardon. Bon alors, donc vous avez vu, je ne sais pas si c'est très clair, du coup c'est un peu haché. Donc, première solution. En gros, les modèles pour une épistémologie de l'attention, en général, ont tendance à toujours considérer que le dépassement est d'ores et déjà advenu, soit en partant du principe qu'il suffit de ne garder que le meilleur des deux approches et en revenant en général à, disons, ce que était une approche ou l'autre au départ. Et deuxième manière de procéder, finalement, certains objets actuels, de toute façon, nécessiteraient l'apport des deux approches. Par exemple, Christian Fuchs, dans ce bouquin-là, entend inscrire son travail sur le digital labor à l'intersection de l'économie politique, la communication d'un côté et des cultural studies de l'autre, dans un retour, là aussi, au fondement marxiste des deux approches, et il entend en fait poser l'articulation des deux à l'ère numérique dans la catégorie de travail, qui serait selon lui leur point aveugle commun. David Desmondage, ici, là, travaille, lui, sur les industries culturelles, et il se propose de réfléchir le terrain des industries culturelles, je cite, « en trouvant un moyen de comprendre les tensions entre un grand nombre d'approches de la culture, économie politique et cultural studies compris. » Nicolas Garnham, ici, dans un ouvrage de synthèse, qui est peut-être un de ses ouvrages les plus intéressants, alors, en fait, là, ce qu'il propose de faire, c'est de prendre les médias dans leur ensemble comme un objet, là encore, qui permettent d'articuler dans un ensemble de problèmes centraux des paradigmes et des approches de la théorie sociale et politique depuis les Lumières, dont l'économie politique et quelque chose d'autre. Aline Mihan, ici, alors, elle fait une grande rétrospective des travaux sur la publicité en général, et elle remarque que, là encore, les travaux sur la publicité en général s'inscrivent traditionnellement dans une démarche, je cite, « combinant méthodes et théories de l'économie politique, des cultural studies, de la recherche féministe, de l'ethnographie et des recherches comportementales. » Mais finalement, comme elle l'indique là, et c'est valable pour les trois autres propositions dont j'ai parlé, dans ce cas, eh bien, ce qui se passe, c'est que les travaux sont pensés depuis l'une des deux approches, en général, qui se sert de l'autre comme élément d'appoint, souvent assez peu théoriquement investi. Par exemple, dans le corpus sur la publicité, ça sert souvent, cette articulation, à donner soit quelques corps théoriques à une partie un peu plus spéculative de l'analyse, ce serait par exemple l'exemple de Matthew McAllister, par exemple, sur la publicité, ou alors, de l'autre côté, à donner quelques profondeurs socio-économiques à une approche qui, sinon, risquerait d'être teintée d'idéalisme, quelquefois postmoderniste, ce serait par exemple le cas de Jim Ford. Donc là encore, on a plusieurs problèmes. Déjà, un problème selon lequel ce seraient les objets qui devraient dicter les méthodes, voire les cadres théoriques, avec en plus une vision de cadrage théorique comme quasiment synonyme de méthodologie, en fait. C'est-à-dire qu'on part du principe que les cultural studies seraient le nom certes pour une approche théorique, mais finalement pour une approche particulière, disons, d'analyse sémiologisante des images publicitaires dans le cas de la publicité, et de l'autre côté, l'économie politique serait plutôt un synonyme d'analyse socio-économisante, alors il faudrait dire, des rapports d'entreprise, etc. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans tout ça, à chaque fois, on a un moyen surtout de réaffirmer les deux approches. En général, à chaque fois, je vous l'ai dit, les gens parlent depuis une approche, réaffirment leur approche et expliquent qu'ils veulent bien parler aux autres. Et il me semble que c'est justement cet aspect-là qu'oublient ces travaux déjà placés au-delà de la tension entre les deux approches. C'est-à-dire qu'on a affaire à des versions muséifiées des approches, dans le meilleur des cas, avec des passés mythifiés a posteriori, plutôt que des courants vivants véritablement avec leurs problèmes épistémologiques véritables. D'ailleurs, le principe nodal, je vous l'ai dit, de ces argumentations, c'est toujours le retour aux sources. Le retour aux sources, et en général, ces propositions se limitent à ce retour aux sources. Alors évidemment, le retour aux sources est nécessaire, mais c'est ce qui pose le moins de problèmes. Revenir aux sources, bon ben voilà, c'est facile, on va voir, etc. Et en plus, le retour aux sources, ça affirme les approches dans une version pure et originelle, plutôt que ça ne les confronte. Et finalement, il me semble que ces arguments finissent par servir une visée plus stratégique. Quelquefois, et on va le voir dans un deuxième temps, baignée de stratégies institutionnelles, plutôt que véritablement épistémologiques. En réalité, cette dimension-là, institutionnelle, n'est jamais abordée dans cette possibilité d'articuler les deux approches. Eh bien, c'est ici que je voudrais en faire l'hypothèse. Essayons d'analyser les difficultés du rapprochement épistémologique entre les deux approches au-delà des simples problèmes théoriques. Évidemment, ils ne sont pas anodins, mais essayons pour une fois de les laisser un peu de côté, alors qu'on les met d'habitude en avant. Essayons de se rappeler que l'économie politique de la communication et les cultural studies sont des approches universitaires. Que leur développement dans les années, à la fin des années 60, dans les années 70 et surtout au début des années 80, se passe en pleine réorientation des appareils de production des pays du Nord, notamment vers la culture, la communication, mais aussi le savoir, l'enseignement. En plein dans un moment également de rationalisation néolibérale de l'enseignement supérieur, avec un accroissement de la spécialisation universitaire, y compris au sein de la critique. C'est ce qui d'ailleurs fait, et on retrouve dans les deux courants des traces de ça, c'est ce qui fait que les deux courants ont une difficulté initiale de reconnaissance institutionnelle et, au-delà de la, et au sein de la critique. Et en fait, leur reconnaissance, et notamment leur reconnaissance critique, s'opère pour les deux courants avec leur institutionnalisation, qui se fait aussi au prix d'une catégorisation sur un marché spécialisé des formations critiques, avec, par ailleurs, vous le savez, une auto-célébration en school ou courant identifié, école de Birmingham, école de Westminster, école de Grenoble, etc. D'ailleurs, le premier dialogue entre les deux approches, il a lieu dans un numéro d'un journal très influent, le fameux Journal of Communications, un numéro consacré justement à l'avenir du champ. Et dans ce numéro, eh bien, vous avez une section entière qui porte sur les traditions critiques, et vous avez des auteurs depuis l'économie politique ou depuis les quelque chose de l'IS qui affirment leur ancrage originel. Du côté de l'économie politique, vous avez Max Chenet, Wasco, Moscow, Mihan. Du côté des quelque chose de l'IS, vous avez Grossberg. Pareil pour la fameuse controverse de 95, qui a lieu dans un journal assez influent sur les études critiques en communication ou sur les communications en masse. Ce que je cherche à dire, c'est que toute critique qu'elle soit, l'approche économie politique et l'approche quelque chose se disent, n'échappe pas à l'accélération mondiale de la libéralisation et de la marchandisation de la recherche et de l'enseignement supérieur sur les trois dernières décennies, et notamment à ce mouvement qui a été analysé notamment dans une livraison récente de la revue Triple C, mouvement vers le self-branding des chercheurs eux-mêmes. Et donc finalement, l'institutionnalisation des deux courants est passée par des compromis, des révisions, qui les ont fait exister aussi en exacerbant leur division d'affichage et en les intégrant complètement à l'accompagnement des mutations. Aussi, on peut bien suivre Jonathan Hardy, que je citais au début, sur la nécessité, je le cite, de faire front commun contre le néoconservatisme et la menace que pose la marketisation de l'éducation supérieure. Mais il ne faut pas oublier que cette marketisation, cette mutation justement de l'enseignement supérieur et de la recherche, est aussi au départ de justement ce fossé et de cette affirmation séparée des deux. Alors, on trouve ça par ailleurs, bien au-delà des études sur les médias. À ce propos, concernant la diffusion actuelle des pensées critiques depuis les universités américaines, Razmik Koshyan disait en 2011 qu'il est possible, c'est ce que je vais mis en gras ici, je vous ai mis toute la citation, parce que je vous filerai de pouvoir pas filmer, mais je l'ai mis en gras ici, il est possible qu'une logique de niche pédagogique dans ce contexte de concurrence accrue entre les universités se mette en place. Une prime à l'innovation pédagogique superficielle sera l'une des conséquences de cette concurrence. Dans un séminaire de 2014, Christian Fuchs et Nicolas Garnham reviennent sur cette fameuse controverse entre économie politique et quelque chose de dit. Et ils se félicitent tous les deux du retour de l'économie politique dans certaines perspectives des quelque chose de dit pour, je cite, « prendre enfin l'économie au sérieux ». Et Fuchs d'ajouter, je cite, « Je suis d'accord, mais n'est-ce pas ce que l'approche en économie politique a toujours fait, concluant alors à une victoire a posteriori du débat par Garnham, c'est-à-dire par l'économie politique, approche dont il est désormais lui-même l'un des représentants les plus en vue à l'université de Westminster. » Au milieu de ça, alors je ne pourrais pas vraiment rentrer dans les détails, mais je crois que le cas de la France est un peu particulier. Vous le savez, les quelque chose studies ont tardé à s'y implanter, mais elles gagnent en légitimité beaucoup depuis la fin des années 90. Tandis que, dans l'autre sens, l'économie politique, c'est l'un des courants constitutifs des SIC, mais qui perd de sa visibilité et de son influence théorique, notamment depuis la théorie des industries culturelles. Et en parallèle de ces évolutions-là, on a, là encore, des mouvements de libéralisation de l'université dès les années 80, mais dont les effets se font sentir plus tardivement, notamment plutôt depuis la fin des années 2000. La situation, c'est celle qu'on connaît bien, diminution des budgets pour la recherche, raréfaction des postes, et donc dans ce contexte-là, les deux courants sont eux-mêmes marginaux en plus au sein de la même discipline où la critique est par ailleurs marginale, comme l'a maintes fois montré Fabien. Et donc ces deux courants déjà marginaux sont en concurrence pour les rares appels et positions ouverts à la critique. Et ce sont leurs meilleurs éléments qui sont en concurrence et qui s'affrontent pour les rares postes fléchés critiques en montrant justement leur participation active de l'un ou l'autre des courants bien reconnus et bien identifiés en tant que tels. Et donc là encore davantage affirmés leur approche, qu'aider vraiment son dialogue avec l'autre. Pour finir donc, évidemment, ce que je cherche à vous dire, ce n'est pas que le dialogue n'est pas nécessaire, ni encore moins qu'il faille abandonner l'ambition de lui donner quelques corps théoriques sérieux. C'est évidemment pas qu'un problème institutionnel, il y a des désaccords épistémologiques qu'il faudrait réfléchir. Mais ce que je cherche à dire ici, c'est qu'il ne suffit pas de donner à ce débat des espaces d'élaboration. Certains ont essayé ici, avec des résultats mitigés. En fait, on ne peut pas décréter le dépassement de l'attention. La phase actuelle étant encore celle de la légitimation continuelle des deux approches, dans une université en mutation où les approches critiques doivent se plier aux mêmes injonctions, attirer des étudiants qui doivent se constituer un capital humain, dans des formations, créer des laboratoires dont les approches sont identifiées pour produire des ouvrages, des articles et des événements scientifiques déjà labellisés, et bien tout ça, ça limite souvent le dialogue à ses dimensions les plus immédiatement opérantes. En plus, en sachant qu'en France, ça se fait au sein d'une discipline qui est encore toujours en permanence à essayer de se faire reconnaître elle-même en tant que discipline. En d'autres termes, on n'est pas encore au carrefour de l'économie politique et des culturalistes, comme dirait Eric George, hein, encore moins au-delà. Je crois qu'il faut revenir, justement, momentanément de cet au-delà, pour justement comprendre ce qui se passe, et comprendre surtout que ce carrefour ne peut exister que, pour le moment, sur des objets spécifiques. Mais en réalité, là, il ne s'appuie qu'à la marge sur des articulations véritables et proprement épistémologiques. Il tend plutôt à chaque fois à rejouer la carte de la surspécialisation accrue et entretient des formes de caricature aux accents marketing associés aux approches. La question économique sur un sujet, on va donner ça à l'économie politique. Les cultural studies, on va vous filer des contenus à analyser, on va penser les subjectivités associées aux pratiques liées à l'objet, etc. Dans tous les cas, au lieu du dépassement escompté permettant une réunion théorique des courants critiques, on a plutôt affaire à quoi ? À la réinstitutionnalisation de leur fermeture sur leur domaine canonique de spécialité. Et ce que je pose, c'est qu'une proposition épistémologique ambitieuse qui viserait vraiment l'articulation théorique des deux nécessiterait en réalité soit une université libérée des contraintes de la concurrence, c'est-à-dire qui ne serait plus considérée comme un marché des idées, soit que les approches ne soient plus dans cette université en position de concurrence aussi étroite, notamment au sein des mêmes départements d'études médiatiques. Merci.
Merci.
Je passe tout de suite la parole à
Madame. On vous laisse enchaîner, ouais.
Tiens, je te donne la place, comme ça tu pourras commenter la luminosité du jour. Pouvoir. Ah, oui. Tiens, si tu veux, t'as ça, comme ça tu peux faire ça.
Donc, si Christophe il a un peu abordé la question de cette controverse entre l'économie politique et cultural studies d'une façon un peu macro en la projetant sur le, disons, entre guillemets, le marché de l'université et de la recherche, ce que je vais essayer de faire, moi, c'est de un peu rentrer un peu sur une problématique particulière de ce débat, et ce n'est après tout qu'une tentative de réflexion. Alors on va parler justement de Gramsci et de sa place, et de ses lectures, notamment dans le milieu des cultural studies, et ce que nous dit Foucault, et c'est, ça parle un peu de ce qu'on va dire après, c'est que Gramsci a été toujours un auteur plus souvent cité que réellement connu. On va le voir par la suite que généralement c'est des lectures qui se font par des intermédiaires et que les lectures directes de Gramsci n'ont pas été très présentes dans les approches qu'on va aborder. Donc d'abord, ce que j'ai essayé de faire, c'est de diviser un peu cette présence de Gramsci dans les cultural studies sur deux moments structurants de ce courant de pensée. Donc le premier moment, c'est le moment fondateur et de l'école de Birmingham. C'est en effet dans les années 60-70 que la diffusion de l'œuvre majeure de Gramsci, dans le cahier de prison, a joué un rôle central dans le développement du courant des cultural studies. Donc le courant qui était montant à l'époque en Grande-Bretagne et voulant notamment se distinguer, se lancer sur une base théorique qui serait la rupture avec le déterminisme économique et le marxisme orthodoxe, Vous voyez dans l'œuvre de Gramsci un arsenal conceptuel et théorique pouvant donner des nouvelles pistes de réflexion quant aux problématiques notamment que va traiter le courant des cultural studies. Notamment la New Left Review qui fut la première référence de ce courant a notamment fut la première peut-être hors d'Italie à utiliser les canons théoriques de Gramsci pour analyser la société anglaise et notamment après sur le thatcherisme, etc. On peut déjà citer dans les années 70 Whigs and Hunt de Thompson en 1975 qui aborde notamment sur une grande partie des concepts de Gramsci, ou Base and Superstructure de Raymond Williams en 73. Donc, le deuxième moment, c'est l'arrivée, comme on le sait, des cultural studies aux États-Unis, et ce virage, on peut le qualifier de dématérialisation des cultural studies. Donc à partir de ce moment, il y a eu un autre affluent du sous-courant, notamment Christophe en a parlé, la French Theory avec Deleuze, Foucault, etc. On a assisté à une dématérialisation du courant des cultural studies. Cependant, Gramsci a toujours été présent, et notamment avec le concept majeur de Gramsci qui était le concept de l'hégémonie. Donc la controverse, elle est pour moi à deux niveaux. La compréhension et la réception de Gramsci comme penseur matérialiste et marxiste auprès des fondateurs des cultural studies, et ensuite avec la dématérialisation des cultural studies, que devenait en fait Gramsci dans les travaux de ce courant. Donc d'abord pour moi il y a un détail à faire. En lisant Gramsci, et notamment le concept d'hégémonie culturelle qu'il propose, on ne peut pas aborder ce concept sans vraiment revenir au contexte socio-et historique où il fut pensé, en fait. C'est que à ce moment, en Italie et partout dans le monde, la vie politique et idéologique et culturelle était centrée autour du parti politique. Donc c'était l'organe vraiment... Gramsci l'appelait le parti organique, c'est vraiment l'organe principal et central autour duquel gravitent les autres institutions, écoles, presse, etc. Et qui, à travers cet organe, l'hégémonie va s'exercer. Et donc, si on parle de cela d'une façon directe, et que se dire aujourd'hui, on n'a plus cette figure, cet organe de parti politique aussi puissant, aussi influent, et que quelle soit l'idéologie dominante ou l'idéologie des marges, on peut dire, elle n'est plus en fait représentée dans un parti central et influent, mais on a des milliers de partis, des milliers d'organes et d'institutions qui font cela. Et c'est de là qu'il faut commencer à réfléchir l'hégémonie. Si on en reste là, donc l'idée de l'hégémonie, elle est absurde avec la disparition de cet organe. Et pour rester un peu dans le contexte du séminaire, on peut se dire aujourd'hui que les médias, aujourd'hui, il faut revenir en fait à la définition que Gramsci donne. Bon, il ne l'a pas donnée d'une manière concise au parti organique, mais on peut dire que le parti organique pour Gramsci, c'est l'organe un peu rassemblant la panoplie de l'intelligentsia, de la classe, soit au pouvoir ou visant le pouvoir, en vue d'une organisation idéologique et culturelle des masses. Si on se tient à cette définition du parti organique, on peut se dire aujourd'hui que les médias ou les instruments de communication peuvent coller un peu à cette définition de parti organique, et c'est de là où on peut parler donc d'hégémonie. Donc maintenant qu'on a dissipé un peu cet obstacle théorique, on peut dire relatif à l'emploi ou à l'étude du concept d'hégémonie, on peut donc avancer sur le contexte du développement du concept chez Gramsci. Alors, autre point important, c'est que plusieurs chercheurs ou penseurs pensent que c'est une erreur un peu courante, que le concept d'hégémonie a été initié par Gramsci, ce qui n'est pas totalement vrai. Donc, si le philosophe italien il a été un peu le vulgarisateur du concept et auquel on lui attribue le mérite théorique de le développer, l'hégémonie a donc bien existé dans quelques écrits aussi de la Grèce antique, mais surtout, surtout pendant les débats entre menshéviques et bolcheviques avant la révolution, donc de 1880 à 1917 avant la révolution russe. Donc Gramsci a en effet, s'est inspiré en effet de ce débat-là en Russie pour formuler son concept. On le voit d'ailleurs, Lénine en parle un peu dans ce débat qu'il a eu avec Plekhanov, autour notamment de comment la classe ouvrière doit se comporter avec la bourgeoisie russe pour combattre le tsarisme. Donc Lénine en parle, il nous dit que les problèmes démocratiques bourgeois n'ayant pas été résolus, la crise révolutionnaire reste inévitable. Cette situation dicte au prolétariat des tâches tout à fait précises et rigoureusement déterminées. Étant la seule classe révolutionnaire jusqu'au bout dans la société moderne, elle doit diriger, elle doit assurer l'hégémonie dans la lutte de tout le peuple pour un bouleversement démocratique complet, dans la lutte de tous les travailleurs exploités contre les oppresseurs et l'exploiteur. Le prolétariat n'est révolutionnaire que dans la mesure où il a conscience de cette idée d'hégémonie et qu'il la traduit dans les faits. Et après, Gramsci, dans la première fois qu'il cite l'hégémonie, il la cite de la façon suivante. On va voir les similitudes avec ce que disait Lénine et après la petite différence qui va alimenter après un peu l'intérêt des culturalistes à cette idée d'hégémonie. Donc Gramsci disait, les idéologies qui ont germé auparavant deviennent parties, se mesurent entre eux en lutte jusqu'au moment où une seule d'entre elles ou une combinaison tend à l'emporter, à s'imposer, à se répandre sur toute l'ère sociale, déterminant ainsi non seulement l'unicité des fins économiques, mais aussi l'unité intellectuelle et morale. Et donc c'est justement là que les lectures de Stuart Hall ou de Thompson ou de Raymond Williams partent notamment de cette idée selon laquelle Gramsci fait une rupture avec le déterminisme économique et inclut notamment l'importance de la culture dans l'idée de l'hégémonie, que l'hégémonie, selon Gramsci, donc s'acte notamment dans les superstructures plus que dans les infrastructures. Mais on peut lire aussi que Gramsci il garde quand même une base économique, on va le voir dans la citation 3 un peu plus tard. Donc la première remarque, donc, je disais, qu'on peut faire à l'hégémonie telle que pensée par Gramsci, c'est qu'il met l'accent sur l'aspect culturel. Et dans sa citation, aussi, Gramsci, lorsqu'il parle de l'hégémonie pour la première fois, il fait référence à l'alliance de classe du prolétariat avec d'autres groupes exploités, notamment et surtout la paysannerie en Italie, dans une lutte commune qui pensait contre l'oppression du capital. L'hégémonie étant pensée au départ comme une situation de domination, non comme une situation de domination, et c'est là le problème, on va le voir un peu plus en détail après, mais comme direction pour employer le mot de Gramsci. C'est-à-dire que l'hégémonie pour Gramsci, il ne s'agit pas d'un état statique de fait et de domination, c'est notamment là où il y a la malinterprétation de cette idée, mais c'est surtout une action, un processus visant le pouvoir. Et notamment, Gramsci fait une distinction très claire entre domination et hégémonie, à laquelle il donne le synonyme de direction. Donc là, pour la domination selon Gramsci, la première, donc la domination, elle s'oppose à la coercition, donc le recours à la force et à l'oppression. La deuxième, elle suppose le consentement. Et donc survient une mauvaise, selon ma modeste pensée, interprétation de l'idée d'hégémonie chez Gramsci. C'est-à-dire quand on parle de si Gramsci pensait l'hégémonie en tant que concept supposant le consentement, donc l'alliance avec d'autres groupes sociaux ou exploités visant l'arrivée au pouvoir, parler par exemple des thématiques qui se manifestent aujourd'hui dans le courant des cultures racialistes, parler aujourd'hui d'hégémonie par exemple hétérosexuelle par rapport aux autres orientations sexuelles, l'emploi du mot hégémonie là, pour moi, c'est les gens qui le font, ils font référence à Gramsci, alors que c'est pas l'idée de Gramsci. On peut parler de domination hétérosexuelle, parler d'hégémonie hétérosexuelle ne colle vraiment pas à la définition gramscienne du terme. La même chose en parlant de hégémonie blanche par rapport aux autres ethnies et races. Donc c'est la même faute, on peut dire, entre guillemets, dans laquelle tombent certains culturalistes. Donc pour Gramsci, pour arriver à l'hégémonie, qui est donc un processus, il s'agit d'abord de bâtir un consentement généralisé autour des idéaux de classe. Donc les idéaux de classe, ils doivent être le socle premier de cette réflexion. Et c'est ce qui fait aussi une contradiction avec la pensée qui, selon laquelle l'hégémonie peut intervenir sur une question des superstructures seulement, c'est-à-dire sur une hégémonie du discours ou une hégémonie des représentations. Selon la réflexion gramscienne, comment lui il formule ce concept, cela ne peut pas être possible. Il le dit d'ailleurs dans la citation 3 d'une manière très claire. Le fait de l'hégémonie suppose indubitablement qu'on tient compte des intérêts et des tendances des groupes sur lesquels l'hégémonie sera exercée. Il se forme un certain déséquilibre de compromis, c'est-à-dire que le groupe dirigeant, donc hégémonique, fasse des sacrifices d'ordre économique corporatif, mais il est également indubitable que de tels sacrifices et qu'un tel compromis ne peuvent concerner l'essentiel. Car si l'hégémonie est éthique politique, elle ne peut ne pas avoir son fondement dans la fonction décisive que le groupe dirigeant exerce dans les secteurs décisifs de l'activité économique. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que même si l'hégémonie est un concept qui intervient dans les superstructures, selon ce que pensait Gramsci, ça reste un concept partant d'une analyse générale dont le vecteur principal est l'analyse des classes sociales. Donc le processus d'hégémonie passe essentiellement par un développement et de démocratisation de la conscience de classe en vue d'une émancipation de cette classe. C'est-à-dire que l'utilisation d'un concept d'hégémonie sans vraiment l'inscrire dans cette totalité sociale reste pour moi un peu incohérent avec la réflexion gramscienne de ce concept. D'ailleurs, les lectures de départ de Gramsci au sein des les pères fondateurs de Cultural Studies et l'école de Birmingham, elle a été donc de l'ordre de cela. Stewart Hall, en 1977, il écrivait donc le concept d'hégémonie n'est pas donné, ce n'est pas un état permanent. Ça doit être activement gagné et sécurisé, et comme ça peut être donc perdu. Donc Stewart Hall, il fait une lecture plus ou moins cohérente avec ce que disait Gramsci, c'est que c'est un état dynamique, c'est un processus qu'il faut sécuriser, ce n'est pas un état de fait subi. Voilà, et ce qu'on va voir après, les lectures un peu misérabilistes du concept d'hégémonie. La même chose, Raymond Williams nous disait, une hégémonie, c'est toujours un processus, seulement peut-être d'une façon analytique, on peut le concevoir comme un système ou une structure donc pour l'analyser, mais c'est toujours un processus actif. Pour Raymond Williams aussi, l'hégémonie, elle va au-delà des concepts de culture et d'idéologie, donc elle ne s'arrête pas seulement sur les idées formulées dans les superstructures, dans les industries, dans le sens, dans les représentations, mais elle va au-delà de ça. Et donc, pour la culture, il dit par son insistance à relayer le tout social par rapport à des distributions spécifiques de pouvoir et d'influence. Et elle va au-delà de l'idéologie parce que l'hégémonie implique pas seulement des systèmes d'idées et de croyances, mais un tout social vécu comme un processus organisé autour de valeurs dominantes. Donc ce qu'on a pu voir là, Thompson aussi en fait une lecture pareille de Gramsci. Donc les lectures de Gramsci chez les fondateurs des cultural studies, notamment concernant le concept d'hégémonie, qui fait le concept le plus utilisé jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, sont relativement cohérentes avec la pensée du philosophe italien. Cependant, même dans ces lectures, on peut déjà questionner deux aspects principaux. Le premier aspect, c'est que quand on emploie le concept d'hégémonie, et là c'est plus une question, une réflexion qui me taraude plus qu'une affirmation que je pourrais dire, c'est que quand on emploie le concept d'hégémonie dans les études de sciences d'information et de la communication, notamment c'est le courant des cultural studies, employer le concept d'hégémonie donc, qui suppose une direction, un processus acté notamment par des intellectuels organiques, etc. On ne peut pas adopter cette réflexion donc d'appareil hégémonique et en même temps adopter des théories du récepteur actif ou de décodage positionnel comme le fait comme les a formulé Stewart. C'est-à-dire que pour moi le concept d'hégémonie il va dans une conception du rapport de force sociale et de la capacité du récepteur à absorber des idées et à les suivre, et ça va dans un sens totalement contradictoire avec tout ce qui se dit autour du récepteur actif. C'est que le récepteur, il peut filtrer des messages, il peut s'opposer à des messages, les filtrer selon son cadre de référence. La deuxième question qui me taraude, c'est que finalement, même chez les pères fondateurs des cultural studies, le point de départ de leur pensée et le point de départ de la pensée gramscienne, et notamment et surtout la finalité, elle n'est pas la même. C'est que si Gramsci, la finalité de l'hégémonie pour lui, c'est la prise du pouvoir et la construction et la mise en place un peu d'un pouvoir socialiste, la finalité des approches cultural studies en sont totalement autres. Donc c'est pas la même finalité, et c'est de là que l'usage du concept doit s'aborder d'une manière très, très prudente. Donc si les pères fondateurs, c'était un peu une lecture cohérente, mais qui propose aussi des questionnements de fond. Le deuxième niveau, c'est parmi les usages contemporains donc du concept de l'hégémonie, sans vraiment citer, parce que c'est des dizaines et des centaines d'articles ou d'ouvrages, à chaque fois qu'on qu'on présente l'hégémonie, elle est toujours présentée, donc, comme je vous ai dit, comme un état statique de domination, c'est-à-dire qu'il y a une minorité, donc supposons la minorité homosexuelle, donc, sur laquelle est exercée une hégémonie hétérosexuelle, comme le dit par exemple Judith Butler. Donc tout l'usage de l'hégémonie dans ce sens a été toujours un usage perverti, un peu misérabiliste de l'hégémonie, alors que l'hégémonie telle que la pensée Gramsci, c'est autre chose. Et notamment, on peut dire là que l'usage de l'hégémonie a été plus un usage linguistique qu'un usage épistémologique, c'est-à-dire fidèle à la théorie ou à la science qu'on a fait Gramsci, c'est-à-dire l'usage linguistique, c'est-à-dire l'hégémonie est de synonyme linguistiquement d'une domination. Et c'est ce que nous dit Gramsci, l'hégémonie est une chose et la domination est totalement autre. Le début de réponse, pourquoi cette perversion de sens, pour moi j'ai essayé un peu de réfléchir à un début de réponse, notamment dans le cas français, et je vous ai déjà donné, fourni, ajouté au lieu qu'a envoyé Christophe un texte qui parle de cela, ça peut représenter pour moi un début de réponse, c'est que Gramsci a été accueilli en France, pas l'œuvre de Gramsci, elle a été accueillie pas d'une façon intrinsèque, c'est-à-dire qu'on a très rarement, comme le dit Foucault d'ailleurs, très rarement lu Gramsci en tant que tel, mais ce qu'on on a toujours passé par des intermédiaires. Soit par des intermédiaires, soit on a trouvé en d'autres penseurs, en d'autres concepts, en d'autres approches de la sociologie ou de la philosophie, des concepts qui pouvaient remplacer le concept de Gramsci. Et notamment le cas de Bourdieu me semble très parlant. Si on peut réfléchir à un parallèle entre plusieurs concepts de Bourdieu et de Gramsci, la domination, l'hégémonie, même si on a expliqué la différence, mais ça a été compris dans ce sens, notamment chez beaucoup des chercheurs des culturastatistes, ça a été compris dans ce sens. Donc, la domination, son parallèle avec l'hégémonie, la théorie de la pratique philosophique, chez Bourdieu, philosophie de la praxis, chez Gramsci, que tous les deux ils se sont intéressés à l'analyse des inégalités, tous les deux se sont intéressés à la culture et au rôle des intellectuels, l'engagement politique concret est assumé des deux. Donc pour moi là, ce virage un peu trahissant un peu la pensée de Gramsci, c'est notamment fait un par la réception de l'œuvre de Gramsci à travers des intermédiaires, et deux, par la présence dans le champ scientifique et épistémologique français notamment, de pensées, de concepts qui auront pu substituer les idées de Gramsci.
Le texte que tu as envoyé, c'est le texte de Buravoy, non ?
Non,
c'est Köchet.
Oui,
c'est Razumi Köchet.
Voilà. Donc c'était un peu une petite réflexion d'un étudiant en master. J'espère que j'ai été clair et concis. Merci.
Oui, on enchaîne.
Ok, bon, je suis en charge de la troisième volet qui reprend une toute autre controverse, mais pareil par rapport à ces questions du rôle des théories de la communication. Et donc, moi, je voulais vous parler en particulier de l'Amérique latine et de deux grands courants de pensée que, dans un premier temps, je vais essayer de présenter avec leur grande ligne, quelque part caricaturé. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que ce n'est pas deux courants qui ont été l'un consécutif de l'autre et qu'ils se sont opposés très frontalement sur le terrain, mais à certains moments, les acteurs de l'un des courants vous êtes passé dans l'autre, vous n'êtes pas une autre aussi. On le présente de manière schématique, mais la réalité est bien plus complexe. Le second objectif, et sans doute le principal, c'est de présenter le courant de la communication pour le changement social, qui est en effet un courant académique d'une part, mais qui est très lié à des luttes sociales. Et donc, il a à la fois, on va dire, un pied dans l'université et un autre pied dans les luttes sociales, donc c'est sa particularité, et c'est pour ça qu'il m'a semblé intéressant de vous parler de ça. Aujourd'hui, pareil comme je vous disais à l'instant, dans cet hémisphère, on va dire, des théories de la modernité, il y a toute une variété d'approches, on les a regroupées pour faire simple sous ce chapeau, en particulier parce que dans l'Amérique latine, alors pareil, il faudrait peut-être revenir sur cette notion, mais par Amérique latine, je vais entendre tous les pays qui sont au sud des États-Unis. Pour faire très simple, et aussi parce que cet espace géographique et politique est un terreau fertile pour nombre d'utopies, à la fois d'utopies, on va dire, émancipatrices, mais aussi d'utopies, on va dire, de droite, un peu d'expériences communicationnelles qui ont eu tendance à vouloir diffuser, par exemple, des technologies militaires se reconvertissait en technologie civile. Donc ça a été aussi un espace, on va dire, une sorte de laboratoire du politique. Donc une grande partie des buts pour la communication en Amérique latine ont eu pour vocation soit à étendre un modèle très vertical, soit au contraire à le détruire complètement et en quelque sorte à contester un modèle impérialiste. Également, il me semble important de vous dire que souvent les théories modernisatrice pouvait avoir effectivement cette vocation de reconvertir des industries militaires en industries civiles, donc par exemple découler des radios, des satellites, de convertir des satellites de guerre en satellites pour la télévision, mais donc on pourrait y voir une intention purement commerciale, mais à certaines reprises, ces théories de la modernisation étaient bien intentionnées, c'est-à-dire qu'on voulait par exemple proposer contrôler les licences en vue de favoriser un développement économique. Donc elles étaient en quelque sorte bien intentionnées et c'est ce qui les rend d'autant plus intéressantes à étudier parce qu'on ne va pas mettre d'un côté les méchants impérialistes qui voulaient vendre des armes et d'un autre côté des sortes de guérillas qui portaient plein d'idéaux, mais que dans les deux camps et surtout dans les deux camps des théories de la modernisation, il pouvait y avoir de très bonnes intentions quant au développement de certains territoires, le problème étant principalement que les solutions étaient pensées par exemple des laboratoires aux États-Unis, dans des agences de développement. Alors, l'idée de vous parler de l'étension entre ces théories de la modernisation et, on va les recouvrer dans un autre chapeau, celle de la dépendance, dans laquelle s'inscrit la communication pour le changement social. Donc, qui serait une sous-partie, mais c'est celle qui m'intéresse le plus, on commence à les retrouver surtout à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc avec l'histoire de la reconversion d'une industrie de guerre en une industrie de paix, mais on les retrouve aussi parce que ces années-là, les années 50, par exemple les années 45, toute une série de luttes sociales, de luttes anticoloniales ont commencé à émerger, notamment du fait de l'affaiblissement des puissances européennes. Les États-Unis étaient investis dans plein d'autres fronts de guerre. Et c'est là que des ferments de luttes sociales ont commencé à émerger. Alors, vous allez me dire quel serait le lien très concret, très direct avec les théories de la communication. En fait, dans toutes ces luttes sociales qui ont émergé avec la volonté de sortir d'une position d'une position de colonisation, de lutte contre des dictatures qui étaient imposées depuis les États-Unis, une bonne partie des personnes qui sont mobilisées, que ce soit des KLIA, que ce soit des groupes d'intellectuels, ont trouvé de l'inspiration dans des théories de la dépendance. Alors, là, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez ou pas, mais pour faire très vite, les théories de la dépendance sont celles qui ont montré que si un pays se retrouvait dans une situation de pauvreté, de domination, ce n'était pas parce que la population n'était pas assez éduquée, directement pour ça, mais parce que la situation de dépendance économique dans laquelle elle avait été mise favorisait tous les autres problèmes qui ont découlé. Donc ce point-là est sans doute central, parce que les théories de la modernisation postulaient exactement l'inverse. C'est-à-dire que si un pays était pauvre, c'était parce qu'il lui manquait une technologie particulière, que ce soit en agriculture, parce que la population n'avait pas un caractère assez enclin à faire... à développer des micro-commerces. Et du coup, c'est vraiment sur ce point-là que ces deux théories vont s'affronter. Donc, d'une part, les théories de la modernisation avaient une vision quelque part plus positive, c'est-à-dire qu'en apportant de nouveaux produits, une nouvelle technologie, en investissant plus d'argent, un pays pourrait presque mécaniquement se développer. Et d'autre part, les théories de la dépendance postulaient exactement l'inverse, c'est-à-dire c'était des théories qui disaient que, de toute façon, même si on investissait toutes sortes de fonds dans le développement de l'éducation, de l'agriculture, du commerce, la situation de dépendance était déterminante et ne permettrait jamais de sortir ces pays d'une situation de dépendance. Donc peut-être c'est un aparté, mais il est intéressant aussi de voir dans l'histoire de l'étude des techniques que c'est aussi... un endroit où s'affrontent ces deux visions, une vision très développementaliste et une vision qui montre que les inventions ne sont pas produites dans un seul endroit et ne se diffusent pas comme voulait le penser toutes les théories de la modernisation. Parce que ces théories de la modernisation partaient aussi du principe que toutes les inventions et toutes les innovations pouvaient être faites dans un centre, les États-Unis ou en partie l'Europe, et ensuite diffusé et semé dans les autres pays qui étaient pauvres, sous-développés, etc. Donc pareil, l'histoire des sciences et des techniques a montré que ce n'était pas exactement de cette manière très linéaire et diffusionniste, un centre et une périphérie, que les inventions ou les innovations techniques pouvaient émerger. Alors, pour vous donner un exemple très concret de ce qu'a pu représenter cette théorie modernisatrice. C'est un exemple ancien, donc il date de 1954. Au Guatemala, il y a eu un gouvernement socialiste de Jacobo Arbenz. Donc il est arrivé au pouvoir. Il a été une junte militaire qui a été organisée par les États-Unis, l'a remplacée. Alors, quelles ont été les raisons? Bon, ce scénario s'est répété plein de fois en Amérique latine, un gouvernement socialiste qui est mis de ses fonctions par une junte militaire avec l'appui des États-Unis. Alors, ce qui, on va dire, embêtait les États-Unis, c'était d'une part qu'il y ait que ce soit un gouvernement socialiste, d'une part. D'autre part, une compagnie très connue, sans doute par vous, qui s'appelle la United Fruit Company, une compagnie. Qui cultivait des bananes. Aujourd'hui, ça s'appelle Chiquita Brands, je crois. Donc, l'idée des États-Unis, en soutenant le coup, ou en montant un coup militaire, c'était de défendre les intérêts d'une de ces entreprises, mais aussi, c'était pas uniquement pour défendre les intérêts de son entreprise, mais c'était aussi pour défendre une vision dans laquelle, pour favoriser le développement d'un pays, il était nécessaire d'avoir une spécialisation. Le Guatemala était une république bananière. Et donc, ce n'était pas uniquement pour défendre des intérêts propres aux États-Unis, mais aussi pour défendre une vision selon laquelle, quand les pays sont spécialisés dans un seul domaine, il est possible de contribuer à l'essor économique et social de ce pays. Donc, bien sûr, toutes les mesures de réforme agraire ont été... renversé pour que toutes les terres qui appartenaient aux populations mayas soient reviennent dans les mains, se concentrent important de la région. C'est aussi à ce moment-là que les mouvements sociaux au Guatemala, par exemple, ont commencé à essayer de s'approprier de différents moyens de communication, que ce soit la radio, la télévision, des affiches. Et avec l'arrivée de la junte militaire, c'est une des premières fois où les États-Unis ont aussi pris ont une mainmise très importante sur ces acquis qu'avait fait le gouvernement d'Alvarez, c'est-à-dire de concéder des fréquences radio à certaines populations mayas. Et c'est vraiment de cette manière-là que toutes les interventions des États-Unis vont continuer à se reproduire en Amérique latine depuis les années 50 jusqu'à la toute fin des années 80. Ensuite, ils ont changé de modèle, mais j'y reviens plus tard. Dans ces théories de la modernisation, il y a une sous-catégorie qui ne se désigne pas elle-même comme sous-catégorie, mais c'est un auteur qui s'appelle Alfonso Bonuncio Dragon, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, et qui l'appelle le marketing social. Et si je vous en parle, c'est parce que les États-Unis, en tant que puissance coloniale, ils se sont rendus compte que faire des interventions pouvait leur apporter une mauvaise réputation, et qu'il était désormais important de faire attention à comment les interventions militaires pouvaient être faites. Et du coup, la communication a totalement été investie comme domaine de guerre. Et c'est ce que Gumusu appelle le marketing social. Donc il le désigne comme un modus operandi des agences états-uniennes, mais à la fois de celles de coopération internationale, dont les programmes étaient financés et dirigés par les États-Unis. Et l'idée, c'était de montrer quel était le bienfait d'une intervention. Alors peut-être que vous avez en tête des images d'intervention militaire, on voit des militaires avec des enfants, en portant des enfants. Donc c'est ce type d'image qui ont commencé à être mis en avant en créant l'idée qu'une intervention militaire est une intervention qui va favoriser le bien-être d'une certaine population. Donc, c'est vraiment pendant ces années 50, 60 que se met en place un changement de discours et une utilisation de la communication pour justifier certaines interventions. Parce que pour faire gros, il y a eu un moment où la guerre c'était la guerre, mais on n'essayait pas de montrer que la guerre ça pouvait être bien et que ça pouvait être sympa. Mais notamment après la guerre du Vietnam, aux États-Unis, il y a eu une prise de conscience qu'il était important de communiquer et de convaincre sur le bienfait d'une guerre. Et donc on a commencé à financer toutes sortes de laboratoires, notamment en communication, qui allaient permettre de produire ce que pour nous s'appelle un marketing social. Alors je vais peut-être passer un peu plus vite sur cette partie, mais donc plus tard, dans les années 80, cette technique s'est perfectionnée. On a inventé ce qu'on appelle le R2P, donc R2P, le Right to Protect, qui était le terme consacré. Donc ça a été produit dans un laboratoire de recherche à l'université de Wisconsin pour justifier l'interventionnisme. Donc il y a eu tout un travail dans le vocabulaire. Le right to be, le right to protect, a été une nouvelle manière de légitimer l'interventionnisme des puissances étrangères. Et donc en le montrant comme une action humanitaire qui avait son sens toujours, comme je vous disais, en mobilisant des images militaires qui portent des enfants, des femmes dans des situations de dépouillement à qui on va apporter à manger. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a un livre très intéressant qui s'appelle « Agir à tout prix » de Médecins sans frontières. Donc Médecins sans frontières raconte un peu l'envers du décor de nombre de ces interventions, même en faisant de l'autocritique. Donc c'est une parenthèse. Donc pour vous dire que ce marketing social, c'est un oxymore, c'est une figure de style pour représenter quelque chose qui en réalité ne devrait pas s'appeler comme ça. C'est une manière de promouvoir des interventions militaires. Alors donc vous avez une image de peut-être un peu schématique, mais en tout cas de ce à quoi a correspondu. Une partie des théories de la modernisation. Peut-être que je vous donne un dernier exemple avant de passer à la suite. Et ce qui est intéressant de cet exemple, c'est qu'il est plus de récent cours. J'ai écrit pour vous montrer que toutes les théories de la modernisation ne sont pas restées dans les années 50, mais sont encore vivantes et appliquées dans certains contextes. Un des domaines qui a été particulièrement investi par les théories de la modernisation a été celui de la santé. Et donc, un des présupposés de la modernisation, c'était que les pauvres faisaient trop d'enfants. Et que s'il y avait de la pauvreté, c'était parce que les femmes tombaient beaucoup trop enceintes. Et que du coup, comme il n'y avait pas de planification familiale, c'est pour ça que des populations se retrouvaient à être des villages entiers complètement pauvres, des familles complètement appauvries. Et du coup, cette idée est encore très forte aujourd'hui de croire que les pauvres ont plus d'enfants parce qu'ils seraient démunis d'un sens commun, rationnel et économique. Et au Pérou, cette idée a eu une application très concrète. L'ancien président Fujimori en espagnol, a réalisé entre 1996 et 2000 à peu près 300 000 stérilisations forcées, ce qui est quand même assez hallucinant. Il l'appelait un plan de santé publique, et l'objectif, selon lui, c'était d'éviter la propagation des épidémies. De fait, quand on fait des stérilisations, par exemple, la population, on limite très mécaniquement cela. Et cela se faisait de manière un peu sournoise, c'est-à-dire qu'on disait qu'on échange de un panier alimentaire, les personnes participaient à une recherche médicale, et les gens ne savaient pas tellement pourquoi ils se retrouvaient là, mais c'était en échange d'un peu de nourriture. Et c'est comme ça que ce président a pu mener toutes ces stérilisations forcées, parce que les gens signaient, mais très souvent pas forcément lettrés. Et ça s'inscrivait aussi dans une politique un peu eugéniste, c'est-à-dire que les personnes appauvries au Pérou correspondaient à des populations indigènes. Et donc, face à tout, donc, il a quand même réussi à faire 300 000 stérilisations forcées, mais les indigènes qui au bout d'un moment essayé d'avoir des enfants se rendaient compte qu'elles avaient été stérilisées de manière forcée, ont commencé à s'organiser en faisant des radios communautaires, etc. Donc, cet exemple-là, à mon sens, montre un point de choc de ces deux théories de manière très, très concrète. D'une part, une idéologie selon laquelle on peut décider sur certaines personnes, sur leur destinée, pour arriver à un bien-être économique qui sert de stériliser tous ces indigènes ignorants. Et d'autre part, comment un mouvement social a pu s'organiser pour déjà faire passer de l'information, dénoncer certaines conditions de pauvreté qui, les indigènes n'étaient pas liés à un manque de connaissances, mais au contraire au fait d'avoir été expropriés des terres. Et tout ce mouvement des radios communautaires au Pérou a été aussi une réponse très concrète à une politique de stérilisation forcée. Ah, je reviens maintenant aux théories de la dépendance. Toutes ces théories de la dépendance ont été surtout promues au début des années 60 par la FAO, l'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation, et notamment parce que l'agriculture était un domaine où très souvent on avait des merveilleuses idées comme celle de faire des monocultures, et très vite les gens se sont rendus compte que quand il y avait une monoculture, on détruisait diverses variétés de plantes, qu'il y avait plus de problèmes d'épidémie. Et du coup, la FAO s'est dit, de fait, on vient souvent avec un modèle d'un plan de développement sur 5-10 ans qui ne fonctionne pas. Essayons de réfléchir à une autre manière, à la fois de proposer des solutions qui vont être utiles pour ces pays-là, parce qu'on est en train de créer des famines avec ces plans de développement. Et c'est vraiment cette organisation qui a eu à la fois un terrain d'expérimentation rurale très concret pour cela, avec un objectif très concret qui était celui d'augmenter les rendements. Il n'y avait pas un projet, alors on peut dire que c'est un projet politique, mais il n'y avait pas un parti politique ou d'autres Et du coup, la FAO elle était vraiment au cœur pendant les années 50, pardon, 60, elle était au cœur d'un de la construction d'un corpus théorique, celle de la théorie de la dépendance, en montrant qu'il était important de se baser sur des savoirs locaux, en ayant bien sûr des canaux de diffusion extraordinaires. Ce n'est pas une radio communautaire en parlant du Pérou, mais c'est vraiment une organisation internationale qui avait des moyens pour arriver avec un discours où en gros la FAO, enfin, les émissaires de la FAO pouvaient recueillir les savoir-faire traditionnels, les diffuser, relégitimer les personnes dans leur pratique. Donc ça a eu une importance centrale, notamment dans la mise en avant des connaissances ancestrales. Et du coup, cette intervention, on va dire, très, très technocratique, a été vraiment le début, ou en tout cas accompagné, toute une série de mouvements sociaux. Alors ça leur est un peu échappé des mains, parce que la FAO n'avait pas du tout vocation à être l'émissaire de la révolution, mais ça a accompagné dans l'idée que les connaissances ancestrales que pouvaient avoir certains peuples, notamment en termes d'agriculture, mais pas que, avaient du sens, pouvaient être valorisées et pouvaient être utiles en quelque sorte. Un autre espace où se sont développés, alors ce n'est pas des théories dans le sens qu'on a pu le voir dans les deux interventions précédentes, et pourtant c'est un peu plus cohérent. Il s'agit des expériences de communication comme ont pu l'être celle de Paulo Freire et Augusto Wahl avec le théâtre de l'Opinée. Donc il s'agit aussi d'un espace d'expérimentation où on a essayé de faire avec des outils le creuset d'un changement social. Donc je ne sais pas, est-ce que peut-être il faut que je revienne sur ce qu'est le théâtre de l'opprimé ou... Donc voilà, pour vous dire que toutes ces expériences de théorie de la dépendance, ou en tout cas d'expériences qui se sont inspirées de la théorie de dépendance, ont pris des formes très diverses, à la fois dans le domaine agricole, comme je vous expliquais à l'instant, mais aussi dans une approche théâtrale de revendication. Plus tard, donc, dans les années 70, tout ce bouillonnement a conduit à l'apparition des facultés de communication sociale. Il faut savoir que ici, on est dans un département d'Infocom en Amérique latine, ça se serait appelé un département de communication sociale, c'est-à-dire que le cursus de journalisme s'appelle communication sociale, et c'est intéressant de voir que c'est à cette époque qu'il a pris ce nom. En quelque sorte, ça correspond à une lutte, le questionnement de savoir à quoi sert la communication. Est-ce que la communication doit-elle être au service du pouvoir, comme cela avait été fait de manière classique, au contraire, si cela doit servir à la société. Et donc on en discutait en préparant cette séance. C'est surtout les facultés catholiques qui ont mis à la mode ce terme, la communication sociale. Et du coup, on discutait de ça avec Christophe, parce que c'est une configuration qui peut sembler étonnante, que ce soit l'Église qui favorise un changement de paradigme de cette manière-là. Mais ce qu'il faut comprendre, mais bon, on ne va pas entrer dans l'histoire de la religion, c'est que, en gros, tous les prêtres qui se sont retrouvés en Amérique latine, c'était des jésuites dont on ne voulait pas en Europe. Donc, c'est pas du tout la même composition sociologique. Et c'est aussi pour ça que la théologie de la libération a pu naître de l'autre côté de l'océan et pas, clairement pas en Europe. Mais je ferme cette parenthèse. Toutes ces théories de la dépendance, ou en tout cas toutes ces pratiques qui pouvaient se rattacher à la théorie de la dépendance, elles ont eu une sorte de point d'orgue pendant les années 80 avec le rapport McBride, je ne vais pas revenir dessus, donc le rapport de l'UNESCO, One World, Many Voices. Je ne sais pas si je le cite parfait de mon lien. Mais qui du coup permettait en
un. Un seul monde voit multiple en France.
Et donc c'est vraiment à ce moment-là qu'elle a fois, on synthétise l'ensemble de ces expériences communicationnelles, et dont l'originalité était d'être à la fois, d'avoir un pied dans le monde académique, mais complètement lié avec des expériences très concrètes, que ce soit de guérillas à Cuba, en Colombie, d'expériences de résistance contre une dictature, notamment au Chili, en Argentine, au Brésil. Et c'est aussi le moment où, en quelque sorte, cet élan a été enterré. Donc c'est à la fois un moment paradoxal, donc je ne vais pas y revenir plus longuement. Et donc, à la fin des années 80, et c'est là qu'apparaît ce mouvement de la communication pour le changement social, alors c'est à la fois un projet politique qui a vocation à faire école. Alfonso Gumón Aragón, dont je vous ai parlé, il est vraiment au cœur de cette démarche. Donc il a fondé le consortium pour le changement social qui essaye de reprendre à la fois s'inspirer de toutes ces théories de la dépendance, mais aussi de porter plus loin, on va dire, les bonnes intentions que pouvaient avoir les théories modernisatrices. Alors comment Moussou décrit cette communication pour le changement social? Alors lui, il donne 5 caractéristiques pour qu'une expérience ou une recherche ou une théorie puisse s'inscrire dans ce mouvement. Alors la toute première, c'est qu'il est indispensable que cette expérience soit communautaire et qu'elle appartienne à la communauté où elle se développe. C'est-à-dire que tous les projets qui viennent parachuter, penser dans un laboratoire aux États-Unis pour se mettre en place au fin fond des Andes, ça ne peut pas être une expérience de communication pour le changement social. Parce qu'il est nécessaire que toutes ces expériences apparaissent et soient appliquées dans le contexte où elles sont vues. Aussi parce qu'il est important pour lui, en tout cas comme il pense cette communication pour le changement social, que ce soit les acteurs qui soient les sujets du changement. Il n'est pas question de venir imposer une révolution à la place des gens. Le deuxième élément, qui peut sembler peut-être un peu simple, mais qui est assez central, est celui de la langue. Les projets doivent se penser dans la langue de l'endroit. Cela est notamment un très grand enjeu en Amérique latine, où il y a énormément de populations indigènes qui ont leur propre langue et à qui on a essayé d'imposer une autre langue, notamment dans les projets de développement, et c'est aussi cela qui a fait que certains projets ont échoué. Et donc il est important de penser et de produire ces projets dans la langue locale. Le troisième point qui le rejoint en quelque sorte un peu, c'est que les contenus qui doivent être générés localement, et ils ne doivent pas être des projets verticaux, mais au contraire favoriser un échange horizontal pour ensuite pouvoir faire des échanges entre par exemple une radio communautaire dans l'Amazonie avec une autre dans la Pampa par exemple. Enfin, l'avant-dernier point, c'est celui de l'usage d'une technologie appropriée. C'est-à-dire que pour vous montrer le changement, la communication pour le changement social ne doit pas être fascinée par des innovations technologiques avec l'idée de mettre en place un système de cours en ligne qui ont besoin d'une connexion très haut débit. Et vraiment, c'est de dépasser cette fascination pour la technologie. Et au contraire, de trouver des technologies, dans tout le sens du terme, qui soient adaptées et correspondent à la réalité. C'est-à-dire que si les personnes qui pensent un projet de communication dans leur village, si une partie est illettrée, il n'est pas question de produire des brochures à la fin. Enfin, le dernier point, et c'est celui de la convergence et de la mise en réseau de tout ça. L'idée, c'est pas non plus de penser uniquement des expériences très locales, très localisées, qui seraient dans l'incapacité de dialoguer entre elles, mais au contraire de faire réseau, d'essayer de exporter en quelque sorte des expériences qui ont fonctionné dans un contexte et de reproduire de manière globale, mais de manière décentralisée, contrairement à ce que pouvaient proposer les théories de la modernisation. Et l'idée de tout ça, c'est vraiment de construire des réseaux, enrichissent l'ensemble des acteurs qui participent au réseau, et ce de manière égalitaire et pas du coup asymétrique. Donc voilà, ces cinq points sont vraiment centraux et en quelque sorte, ils prennent le peu qu'il y avait à rattraper, à reprendre des théories de la modernisation et vraiment donnent une toute nouvelle dimension à certaines contestations un peu expressionnistes ou autres qu'il y avait pu avoir en Amérique latine. Il y a encore un certain nombre d'éléments, mais peut-être que je les laisse pour la discussion. Donc voilà, je vais m'arrêter.
Ok, mais merci beaucoup.